Bonsoir Raphaël Baquet.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous pour venir parler de ce dernier livre, Nos Nouveaux Maîtres. Avant ça, juste une petite précision, on sera aussi en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mola. Tout cet entretien donc est en direct, filmé et enregistré. À la fin, il y aura une petite séquence de questions avec le public. Alors avant de parler de ce nouveau livre, Raphaël Baquet, quelques mots pour vous présenter. On vous connaît, mais vous êtes grand reporter au journal Le Monde, pour lequel vous signez de grandes enquêtes. Vous êtes aussi autrice de plusieurs livres. Je vais citer l'avant-dernier, donc, qui est une affaire très française sur Gérard Depardieu, que vous co-signez avec Samuel Blumfeld. Voilà, et donc là, maintenant, vous venez de nous présenter ce dernier livre, qui est un ouvrage à plusieurs mains, ainsi même, hein, puisque vous le co-signez avec Damien Leloup, Alexandre Picard, qui sont deux spécialistes de la tech pour le journal Le Monde. Et la tech, c'est tout le cœur de votre sujet. Je vais faire le pitch sur Raphaël Baquet avant de vous poser tout un tas de questions, mais simplement pour poser le décor et que tout le monde ait le cadre de cet entretien. Dans ce livre, pour ce livre, vous êtes allé dans la Silicon Valley, rencontrer ce que vous appelez nos nouveaux maîtres, avec ce pouvoir immense. Et vous nous emmenez dans les coulisses de cet endroit, la Silicon Valley, où on croise quelques personnages qui font notre quotidien, dont l'homme le plus riche du monde, Elon Musk. On croise aussi Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, le patron de Meta, de Facebook, et un certain Peter Thiel, dont on entend de plus en plus parler. Si vous suivez l'actualité américaine, c'est devenu aujourd'hui un des penseurs du Trumpisme, en tout cas un des influenceurs MAGA les plus importants de l'époque que nous traversons. Et vous nous emmenez dans ces coulisses-là. On croise aussi dans votre livre quelques présidents américains, parce que tout ça s'imbrique. On croise Barack Obama, on croise Joe Biden, et bien entendu, celui dont on parle quasiment tous les jours, Donald Trump. Et ça, c'est important, parce que ces nouveaux maîtres, aujourd'hui, c'est ceux qui sont à ses côtés. On verra quels sont les mots que vous retenez. D'ailleurs, Raphaël Baquet, est-ce qu'on parle d'allégeance? Est-ce qu'on parle de reddition? Tout ça irrigue votre livre et cette réflexion et cette enquête. Et pour commencer, je voudrais qu'on revienne sur un point de départ, parce que c'est aujourd'hui, c'est acté que tous ces géants de la tech, ces multimilliardaires, voire ces multimillionnaires, qui mettent leur réseau au service de Donald Trump, qui mettent leur influence, qui mettent leur argent aussi au bénéfice de leur fortune personnelle, parce que ça, c'est aussi un des fils rouges de ce livre, parce que dans cette galaxie-là, on s'enrichit beaucoup, et le dollar est vraiment une référence absolue et qui ne quitte jamais personne. Et en tout cas, quand on suit tout ça, c'est acté. Et pourtant, Raphaël Baquet, je vais commencer par là, c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais la Silicon Valley, avant, n'était pas un temple de dévots, MAGA ou du Trumpisme, c'était plutôt la référence des démocrates. Racontez-nous comment tout ça s'est bouleversé, comment tout ça s'est retourné, Raphaël Baquet.
En fait, c'est vrai que c'est un endroit tout à fait particulier, donc en Californie, autour de San Francisco, en vérité, San Francisco étant la grande ville de la Silicon Valley, mais toutes ces grandes entreprises sont à une heure de voiture de San Francisco, donc autour de Palo Alto, notamment de Stanford, qui est la grande université de la Silicon Valley. C'est un endroit qui est né... Alors, c'est une ambiguïté, c'est que la tech, au début, les grandes entreprises de technologie, elles naissent d'abord avec l'aide de l'armée. Donc, pas vraiment, quand même, avec une vision d'abord militaire. Mais assez vite, dans les années 70-80, elles vont devenir un endroit cool. On avait cette impression-là. On le voit bien, d'ailleurs, toutes les grands héros de cette époque-là, et notamment Steve Jobs, qui est probablement le plus connu, qui est l'inventeur d'Apple. Vous le voyez physiquement, il a les cheveux un peu longs, il est toujours pieds nus. Ils ont brossé volontairement, à la fois parce que c'était leur génération, une génération post-guerre du Vietnam, pour dire les choses un peu grossièrement, et aussi pour des raisons marketing. Ils s'étaient présentés comme des gens très cool. Et toute leur idée, c'était « on va faire l'Internet, c'est génial, pour partager le savoir. » Donc partager le bien commun, hein, pour l'humanité. Et puis en fait, ça a changé peu à peu, au fur et à mesure d'abord de leur succès, évidemment de leur succès industriel. Ça change dès la fin des années 90 et encore plus au moment des années 2000. Et là, on a une deuxième génération qui est la génération qui est dans le cœur du livre, qui est cette génération d'aujourd'hui, des patrons de la tech, où effectivement arrive Mark Zuckerberg étant le plus jeune d'entre eux, mais il y a Jeff Bezos, Elon Musk, les patrons de Google. Et ceux-là vont peu à peu s'aventurer vers autre chose, c'est-à-dire des entreprises d'abord multimillionnaires, puis milliardaires. Aujourd'hui, on ne parle plus qu'en milliards. Il y a encore quelques années, on ne parlait pas du tout en milliards. Enfin, vous voyez vous-même, ça, on ne sait plus d'ailleurs très bien ce que ça veut dire. On a du mal à imaginer ce que ça veut dire. Mais ces entreprises, elles ont explosé avec leur succès aussi populaire, si je puis dire. Google est devenu notre moteur de recherche pour la plupart d'entre nous. Nous avons pratiquement tous un smartphone. Souvent, il est soit sud-coréen, soit quand même très largement américain. Et les concurrents potentiels sont chinois. Donc vraiment, ils sont devenus, et avec notamment le smartphone, ils ont pénétré nos vies. Et surtout, ils ont fait des profits sur quelque chose qu'on a... Quand je dis nous, les uns et les autres, vous et moi, on n'a pas tout à fait vu à quel point ils avaient pénétré nos vies et à quel point ils avaient récolté tout ce qui fait toutes nos données, en vérité. C'est-à-dire... Ils savent tout sur comment on se déplace, qui nous sommes, ce que nous aimons, nos données bancaires, et tout simplement ce que nous aimons, hein, ce que nous regardons sur notre téléphone, sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont pris une importance tout à fait démesurée. C'est assez nouveau. Ça date de ces 25 dernières années, en vérité. Et aujourd'hui, ils sont parmi les plus riches, parmi les 25 premières fortunes du monde, il y a quand même plus de 2/3 qui sont dans la tech. L'homme le plus riche du monde est Elon Musk. Et donc aujourd'hui, effectivement, ils ont un poids tout à fait considérable. Et ce qui m'a donné envie de faire ce livre, moi qui m'intéresse au pouvoir dans tous les livres et les enquêtes que je fais, c'est qu'ils ont effectivement basculé auprès du président américain d'aujourd'hui et d'une façon qui n'était pas la leur jusque-là.
Justement, c'est là-dessus qu'on va revenir pour commencer cet entretien, Raphaël Baquet, parce que Clinton est le premier président à avoir une adresse mail, vous le rappelez, donc ça nous ramène, c'est pas si lointain, et pourtant non. Ça semble être une éternité. Barack Obama est le premier à saisir l'importance des réseaux pour sa campagne présidentielle. Là, ça commence à changer, il rencontre Zuckerberg, et tout ce petit monde est quand même très pro-démocrate. Les démocrates ont la main mise, je mets des guillemets, en tout cas sur la Silicon Valley, et en tout cas c'est plutôt leur terrain de jeu. 2013, Google met tous ses moyens pour soutenir Obama, ce qui est important à rappeler parce que c'est plus du tout ce qu'on vit aujourd'hui. Et je reviens sur, vous évoquez une étude de 2017, Raphaël Baquet, je vais vous laisser la commenter, parce que ces grands patrons-là qui aujourd'hui ont viré Kazakh sont pas du tout les mêmes, ils n'ont pas les mêmes opinions. C'est l'étude dont vous parlez.
Ah bah, en 2017, effectivement, des chercheurs en sciences politiques font une étude sur les cadres et les patrons de la Silicon Valley. Et ils font pas seulement une étude sur qu'est-ce qu'ils votent, mais quelles sont leurs valeurs, en fait. Alors, leurs valeurs sur notamment le progressisme. Est-ce qu'ils sont pour le mariage homosexuel? Est-ce qu'ils sont... enfin, vraiment toutes les valeurs qui signent le conservatisme ou le progressisme. Alors là, à Silicon Valley, vraiment, mais c'est massif. Absolument tout le monde est archi-progressiste, plus que le Parti démocrate lui-même. Donc, et d'ailleurs, pratiquement tout le monde vote démocrate. Donc c'est vraiment très, très frappant. Or, effectivement, même d'ailleurs au moment de l'élection de Trump, dans ce parti, la Silicon Valley vote massivement quand même pour Kamala Harris. Mais la différence, c'est effectivement le changement des patrons de la tech, qui jusque-là, eux aussi, votaient comme leurs employés, en vérité. Ils votaient comme leurs cadres. Et là, tout d'un coup, ils vont se rallier à Donald Trump, qui n'est pas n'importe quel républicain, quand même. Parce que, après tout, ils auraient pu se rallier à un modèle républicain un peu classique. Et d'ailleurs, en Californie, il y a eu quand même, à quelques reprises, des gouverneurs républicains. Par exemple, Ronald Reagan, hein, qui venait Schwarzenegger, tous les deux venaient de Hollywood, qui est l'autre grand pôle de la Californie. Mais c'était des républicains, je ne peux pas dire progressistes parce que ce n'était pas tout à fait ça, mais ils n'étaient pas de la trempe de Trump, justement. Donc, ils étaient quand même école. Assez différents. Voilà, c'était une autre école. Là, il se rallie au plus... radical des républicains, qui est le Donald Trump du deuxième mandat, celui que nous voyons tous les jours exposé. Et ça, c'est nouveau. Et ils le font à la fois par peur et par intérêt.
Justement, vous citez deux ruptures, Raphaël Baquet. Je vais peut-être revenir sur... J'ai commencé par celle-ci. Pendant le mandat de Biden, on commence à entendre un mot qui apparaît à la faveur de l'emprise des réseaux sociaux dans notre vie quotidienne, de toutes ces applications, c'est le terme de régulation. Alors autant en France, on est très habitué, autant aux États-Unis, ce mot-là commence à froisser quelques oreilles. Et comme vous venez très justement de le dire, tout ce petit monde a largement prospéré, aujourd'hui à la tête de fortune colossale, et le mot régulation commence à les heurter. Et c'est, est-ce que c'est ça où Biden commence à perdre, les démocrates commencent à perdre le fil avec cette élite dirigeante extrêmement riche, extrêmement puissante, et qui a entre les mains toutes nos données?
Oui, ça en fait partie, et même un peu avant. C'est-à-dire que même au moment justement de la première élection de Trump, on s'aperçoit que les réseaux sociaux ont été utilisés pour justement... Alors, à vrai dire, c'est un peu abusif comme accusation, mais en Europe se passe le Brexit, la sortie des Britanniques de l'Union européenne. Les réseaux sociaux y ont joué un rôle non négligeable, et vous avez peut-être entendu parler de Cambridge Analytica, qui était une façon d'analyser et d'utiliser les données des électeurs pour pouvoir les orienter. Eh bien, cette accusation, elle arrive aussi aux États-Unis. Et donc, il y a une remise en cause du rôle que peuvent jouer les réseaux sociaux, notamment par les parlementaires démocrates. Et par exemple, Mark Zuckerberg se retrouve convoqué par une commission d'enquête au Sénat. Et là, il est mis en cause, comme il l'est d'ailleurs aujourd'hui.
Hein, vous le racontez dans le livre, ouais. Ce passage-là.
Il est mis en cause, et ça, c'est le premier élément quand même d'incompréhension, parce que Zuckerberg, il est, mais alors, plus démocrate, progressiste. C'est vraiment le gentil Zuc. Donc là, évidemment, pour la première fois, il se dit, quand même, ça me coûte très très cher de faire de la modération de Facebook, à l'époque, de Facebook puis d'Instagram, mais ça me coûte très très cher, et en fait, je me retrouve accusé quand même, donc vraiment, il y a un problème. Et puis Biden aussi arrive et succède à Trump, et Biden, il est beaucoup moins pro-tech que ses prédécesseurs. Obama, il jouait très très bien avec ça, mais c'était pas tout à fait la même époque. Donc, lui, au contraire, il trouvait un avantage à séduire par les réseaux sociaux. Mais Biden, c'est pas la même génération. Et Biden, il commet... D'abord, il pense qu'il faut quand même réguler un peu les réseaux sociaux, ne serait-ce que parce que on peut y trouver tout et n'importe quoi, comme aujourd'hui. Des images pornographiques, des appels à la haine raciale, du négationnisme. Donc, il s'en inquiète, parce que c'est un vieux démocrate à l'ancienne... comme on dirait presque un vieux socialiste, bien que les socialistes et les démocrates soient pas tout à fait pareils, mais enfin bon, pour trouver un point de repère. Et puis même, il commet même une deuxième gaffe avec Elon Musk. Il réunit tous les leaders de l'industrie automobile, et notamment ceux qui font des voitures électriques. Il les réunit sur un critère qui est celui de sa génération et de sa formation politique, c'est-à-dire aussi avec les emplois créés et les syndicats, qui sont très forts, les syndicats de l'industrie automobile. Or, chez Musk, il n'y a pas de syndicats. Hein. Musk est quand même le leader avec Tesla des voitures électriques. Il ne l'invite pas. Donc là, il y a vraiment une espèce de vexation, d'humiliation volontaire. Bref, tous les malentendus vont s'enchaîner entre ceux qui, jusque-là, étaient dans le sillage des démocrates et qui vont s'apercevoir que soit ils sont mis en cause par les parlementaires démocrates, soit ils sont carrément pas invités par le président, ils sont méprisés quand il s'agit de célébrer une partie de l'industrie automobile. Bref, le divorce se met peu à peu. Et puis, dernier élément, Trump, qui jusque-là, franchement, il y connaissait rien à la tech, il se retrouve avec autour de lui une nouvelle génération de Trumpistes beaucoup plus radicaux et qui ont conscience du pouvoir des gens de la tech et qui entreprennent de les faire revenir vers lui. Donc, en fait, en l'espace de moins de 10 ans, il va y avoir un virage qui va s'amorcer petit à petit jusqu'à cette scène que nous avons tous en mémoire, où on voit, lors de l'investiture de Trump au Capitole, on voit cette rangée de patrons de la tech qui viennent baiser l'anneau, hein, qui viennent s'humilier. D'ailleurs, c'est une scène de ralliement tout à fait spectaculaire.
c'était une autre rupture qui est un peu plus personnelle pour le personnage que ça concerne, mais qui semble, dans votre livre en tout cas, fondamentale, c'est que le fils, un des enfants de Elon Musk, veut faire une transition sexuelle, changer de sexe. Et ça, c'est l'affront ultime pour Elon Musk, qui se radicalise et qui vient tout de suite rentrer dans la sphère de Trump, en tout cas soutenir Trump. Racontez-nous ça, parce que oui, fond, c'est une histoire très personnelle.
C'est important.
On sort plutôt des stratégies politiques, en tout cas, et puis même de la question très financière. Mais là, on touche à l'intime. Et il y a une rupture chez Musk qui le pousse chez les plus réactionnaires.
Jusqu'ici, tous ces leaders de la tech, ils sont tout à fait acceptés, les mouvements très progressistes, alors qu'on appelle woke, parce que le wokisme n'est pas tout à fait ce que nous, on connaît en Europe. C'est effectivement, de façon un peu radicale, des mesures, d'ailleurs, enfin, moi, que je trouve grotesques, qui sont aussi grotesques, d'ailleurs, que les trucs MAGA. C'est-à-dire, vraiment, tout d'un coup, les universités, plutôt que de faire des politiques contre la discrimination, de promotion des Noirs, des femmes, enfin, comme on le fait, nous, dans nos entreprises, à vrai dire, ils en viennent à faire vraiment des espèces de formatage tout à fait frappants qui heurtent les gens. Mais surtout, effectivement, il y a cette affaire de Musk. Musk, il a beaucoup d'enfants. Il a une idée eugéniste de la procréation. Il pense que, étant supérieurement intelligent, il doit pouvoir ensemencer des femmes, comme il dit, donc donner son sperme. Il utilise beaucoup la PMA. Et donc, il a cette idée-là qu'il peut faire des enfants supérieurement intelligents grâce à ce qu'il est lui. Or, il se trouve que l'un de ses fils décide effectivement de faire une transition et de devenir une femme. Ce qu'il fait jusqu'au bout. Donc, il devient une femme. Donc, cette jeune femme, elle rompt avec son père de façon fracassante. Et là, effectivement, c'est l'espèce de goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pour Musk, c'est vraiment la démonstration du dévoiement de ce qu'auraient apporté les démocrates.
Et on va faire le lien avec... parce que Musk, avec toute sa puissance, qui a racheté Twitter X aujourd'hui, avec un réseau social extrêmement puissant, qui correspond à l'ADN et à la manière de fonctionner de Trump, qui en a été banni, qui a monté son propre réseau social, mais qui va faire son retour. Là, on parle de nos nouveaux maîtres. On voit l'exercice d'un patron de la tech ultra puissant qui se met au service d'un candidat qui veut devenir le 47e président des États-Unis après avoir été le 45e. Racontez-nous ce rapprochement, ce que ça change dans la dynamique, parce que le titre de votre livre, c'est Nos nouveaux maîtres. Et là, on rentre vraiment dans cette question de pouvoir.
Là, on rentre dans un dernier élément qui est le pouvoir sur la façon dont se façonnent et dont se forment les opinions. Et effectivement, jusque-là, encore une fois, le problème des réseaux sociaux, c'était est-ce qu'on les modère, est-ce qu'on empêche les actes de violence, les images pornographiques, etc. Là, ça devient tout à fait différent. C'est comment pousser une idéologie et l'idéologie MAGA, enfin ce qu'on appelle MAGA, c'est-à-dire l'idéologie la plus radicale hein, parmi les républicains. Et Musk va vraiment s'y atteler. Il le fait toujours, d'ailleurs. Il change son algorithme. D'abord, il rachète Twitter, qui était jusque-là un réseau social où on pouvait trouver d'ailleurs tout et n'importe quoi, mais enfin quand même, qui était à peu près modéré.
Il y avait encore de la modération, il y avait encore...
Voilà, il y avait quand même une modération. Il vire tous les modérateurs, il vire d'ailleurs une bonne partie des employés, et il change complètement ce réseau social, et il modifie l'algorithme de façon à pousser une polarisation de ceux qui s'y expriment, et donc à radicaliser ceux qui s'y expriment. C'est un réseau social qui est très puissant. Hein. Peut-être que certains d'entre vous l'utilisent et sont dessus, mais c'est un réseau social très puissant. C'est probablement, avec Facebook, l'un des réseaux les plus puissants. Et là, effectivement, il y a une volonté vraiment d'orienter, de manipuler l'opinion. C'est la première fois qu'ils s'orientent dans cette voie, ces patrons de la tech. Et ça, c'est le dernier acte de rupture, si on peut dire. Et donc aujourd'hui, effectivement, nous avons des patrons de la tech qui sont dans les domaines les plus essentiels de nos sociétés, qui sont dans les domaines de la communication par satellite. Jeff Bezos et Elon Musk ont des satellites. Ils sont dans le domaine du commerce. Bon, ça va de soi. Ils sont dans le domaine de la communication de l'information et de la formation des opinions avec leurs réseaux sociaux. et ils sont dans le domaine militaire. Donc, et aussi, avec Peter Thiel qui a créé PayPal, l'idée de créer aussi une forme de monnaie, puisqu'on peut maintenant payer en dehors même de tout, du dollar ou de l'euro, vous pouvez payer directement sur Internet. Donc, ils sont aujourd'hui dans des domaines qui sont jusque-là ceux de l'État ou ceux des sociétés démocratiques. Et là, ce sont eux qui en sont les maîtres, d'où les nouveaux maîtres.
Et bien, pour rester sur ce sujet-là, et en tout cas, c'est au cœur de votre livre, mais vous citez la phrase de la présidente d'une société qui s'appelle l'Atlas Society. Là, on rentre presque dans le Saint-Dessin, dans le cœur du réacteur. En tout cas, on voit que la dimension de prospérité, de croissance, de faire fortune se double d'une autre dimension, c'est celle de l'idéologie. Et on voit arriver quelque chose qui est peut-être un peu plus souterrain, peut-être un peu moins raconté devant les caméras, mais qui irrigue tout ce petit monde-là, et c'est ce que vous racontez très bien dans ce livre. Et cette phrase est la suivante: nous sommes dans un combat à mort entre la politique et la technologie. Ça, c'est, on rentre chez les libertariens, mais racontez-nous d'abord cette société, la présidente de l'Atlas Society, racontez-nous un peu cette scène, parce que cette phrase-là, au fond, elle pourrait être un des fils rouges aussi de ce livre. Elle sous-tend clairement la réflexion et l'enquête de ce livre.
En fait, peu à peu, effectivement, les plus radicaux et les plus idéologiques, et notamment Peter Thiel, effectivement, vont prendre le pas de la pensée politique et considérer que il faut pousser la tech vers de plus en plus de puissance sans frein, et que les menaces de frein, ce sont les élus. Ce sont les élus. Peter Thiel, c'est un personnage tout à fait particulier. Alors effectivement, en France, on comprend pas tout à fait ce que c'est qu'un libertarien, parce que on a la religion de l'État, nous. Donc les libertariens, ils sont contre l'État. Donc mais vraiment contre l'État. Donc, Peter Thiel, c'est un libertarien. C'est un homme qui passe pour un intellectuel. Alors, bon, moi, j'ai lu tout ce qu'il a produit. Il y a une volonté de théorisation, mais franchement, ça fait peur.
Ces références, on en parlait avant de venir présenter, faire cet entretien, référence sur la science-fiction, référence sur Tolkien, l'univers de Tolkien. Il y a quelque chose qui renvoie à l'ésotérisme aussi, mais en tout cas, références habituelles. J'aimerais que vous nous en disiez un mot par rapport aux élites habituelles américaines.
Alors,
allez-y, après on enchaîne.
Je fais juste un petit truc sur Peter Thiel et après je vous dirai. Ouais. Peter Thiel, effectivement, c'est un libertarien, mais c'est aussi quelqu'un qui a théorisé. Il a passé son enfance en Afrique du Sud, comme Elon Musk. Ce n'est pas indifférent, car ils ont passé leur enfance dans l'Afrique du Sud, de l'apartheid. Donc, ils en ont gardé l'idée qu'il y a des gens qui sont plus faits que d'autres pour diriger, et que, voilà, ils dirigent les autres. Donc, ils ont gardé cette idée-là, et Peter Thiel, vraiment, il a cette idée-là. Il considère que, à vrai dire, pour que les choses marchent, il faut qu'une petite élite dirige, une élite d'ingénieurs, pour lui, une élite de patrons de la tech. Et que franchement, non. D'abord, à partir du moment où il y a eu le vote des femmes, franchement, ça a été la décadence, et le vote tout court. Donc, il est vraiment très particulier. Mais lui, il est encore assez marginal, en vérité. C'est celui qui est le plus radical, mais il est assez marginal dans la Silicon Valley. Ce qui est intéressant, c'est que ça vient toucher ce qu'est cette nouvelle élite de la tech qui m'a beaucoup frappée. Je crois que c'est la première fois qu'on voit une élite, effectivement, qui a cette physionomie, si je puis dire. Ce sont des diplômés de toutes les grandes universités américaines, souvent. Bon, très bien, okay, ça c'est classique. Mais l'élite américaine, jusque-là, c'est une élite de juristes et d'avocats, beaucoup, hein, de gens, en tout cas, qui ont fait du droit, qui ont fait des sciences politiques, qui aiment la littérature. C'est l'élite classique, un peu comme chez nous. Mais là, c'est une élite tout à fait différente dont les références sont... D'ailleurs, enfin, moi, ça m'a plu parce que j'aime aussi cette littérature, mais ces références sont la science-fiction. Ça compte quand même d'avoir pour référence la science-fiction. Et vraiment, vraiment la science-fiction. C'est-à-dire qu'ils ne lisent presque que de la science-fiction. Ils jouent à des jeux vidéo qui mettent en scène des scénarios de science-fiction. Donc, cette idée que, effectivement, c'est la science-fiction avec... pas tellement le versant orwellien, disons, de la science-fiction. Hein. Peut-être que vous vous souvenez d'ailleurs que la première grande publicité d'Apple, elle met en scène 1984. elle met en scène une jeune femme qui court et qui va briser un écran où parle Big Brother, parce que, en fait, pour s'émanciper, il faut le petit écran du Macintosh. Donc, c'est la publicité. Mais en vérité, ça s'est passé. Et ce n'est pas tellement Orwell qui leur plaît, c'est plutôt, effectivement, Le Seigneur des Anneaux, Fondation, des histoires qui mettent en scène des empires. En vérité, la construction d'empires, le fait de quitter la Terre et de créer de nouvelles colonies d'humains, tout ça, ça irrigue beaucoup la pensée des patrons de la tech. Ça m'a intéressé. Et plus encore Peter Thiel, dont pratiquement tous les noms de toutes les sociétés qu'il crée sont inspirés du Seigneur des Anneaux, sont des noms trouvés dans le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Donc vraiment, ils ont cette référence à des empires autres, hors de la Terre, avec toujours un sauveur de l'humanité, qui est un.
Et un homme.
Un homme, et qui est unique, qui est tout seul, et qui sauve l'humanité. Donc, ça irrigue beaucoup leur pensée. Et ce n'est pas anecdotique quand je vous dis ça, parce que c'est très frappant. Évidemment, vous le savez, Musk a beaucoup cette idée-là. Il veut aller sur Mars. Ce n'est pas seulement l'idée de conquérir de nouveaux territoires. C'est quand même l'idée de... Cette terre est foutue, on va créer une autre colonie, et une colonie à notre image et à notre goût, avec nos règles à nous. Donc c'est vraiment quand même... Ce n'est pas du tout des références à la démocratie, à la délibération, au peuple tel qu'on l'entend, hein, encore en Europe. Mais
Vous avez un exemple très clair, parce que mais c'est à peu près pareil, mais finalement, Peter Thiel a un vrai scepticisme sur l'État, il n'en veut pas. Mmh. Il y a des exemples de villes libertariennes. Alors, vous racontez une scène qui est absolument géniale, je vous laisse la raconter, parce que ça montre à la fois le côté absurde, mais en même temps la détermination qui est la leur de pousser le truc jusqu'au bout, mais à la fin... Ça s'effondre. Racontez-nous.
Ils ont tenté, oui. Certains d'entre eux, les plus libertariens, dont Thiel est effectivement le chef d'état-major, si je puis dire, en tout cas le penseur, mais ils ont une tentation de faire sécession avec l'État, donc de créer eux-mêmes des espaces qui échappent à l'État. Donc la plupart d'entre eux ont racheté des îles, des territoires. Ils ont racheté beaucoup en Nouvelle-Zélande. C'est leur image aussi très Tolkien, hein, d'un nouveau pays hors de l'État. Et évidemment, à partir du moment où personne ne dirige plus, sauf c'est l'anarchie en vérité. Donc assez vite, effectivement, cette tentative s'est transformée en une anarchie totale. Plus personne ne ramassait les ordures. C'était vraiment la catastrophe. Mais on le voit bien, certains d'entre eux ont cette idée quand même de faire sécession, et ça a une conséquence, parce qu'après tout, ça pourrait être purement pittoresque, hein, on les verrait racheter des îles et y construire leur propre État, mais ça crée aussi un état d'esprit qui est que ils n'ont pas peur de la fin du monde, puisqu'ils pensent qu'ils vont y survivre. Ils pensent que justement, ils seront dans leur fusée, dans leur monde à eux, et ils n'ont pas peur de cela. Ça joue un rôle dans leur façon de vouloir justement déréglementer, hein, surtout absolument pas de régulation. Ça joue un rôle aussi dans leur volonté de rompre avec les politiques de préservation de la planète qui sont celles que, bon an, mal an, la plupart des grands... des empires ou des grandes constitutions de pays adoptent peu à peu devant le réchauffement de la planète, ça joue un rôle très important.
Alors vous le disiez à l'instant, Raphaël Bakim, on va revenir dessus sur cette ville, parce qu'en fait, ils poussent le bouchon jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'ils vont construire une ville avec des libertariens, où il n'y a aucune règle. Vous disiez à l'instant, plus personne ne ramasse ses poubelles, mais la conséquence, c'est qu'ils sont obligés de fuir, parce que ça fait venir les ours. Mais racontez-nous, parce que c'est quand même assez génial comme histoire. Et on voit on voit la détermination d'aller au bout du processus, mais on voit que le processus, finalement, il se heurte à quelque chose qui fait que...
Le processus, il se heurte tout simplement à ce que c'est la nature qui reprend les droits. Voilà. C'est pas l'homme. Donc effectivement, il se retrouve avec des ours qui envahissent ce territoire et ses tentatives... tourne court, parce que c'est impossible. Donc, leur modèle, il n'est pas viable, ou il est viable avec qu'une petite forteresse, en vérité. Hein. C'est ça, le problème, c'est que leur imagerie mentale, elle se heurte à la réalité. Et effectivement, ça n'a pas fonctionné.
Et je reste sur les références, parce que vous avez dit, ce sont des gens qui ont des références des anciens empires. Et il y a une fascination pour Rome. Alors expliquez-nous, parce que pour le coup, on s'éloigne du continent américain, on revient au cœur de l'Antiquité, mais cette Rome-là inspire, fascine ces dirigeants de la tech qui réfléchissent à aller sur une autre planète, fonder d'autres colonies, mais ils ont un imaginaire qui les ramène quand même, qui les ramène en Europe.
Ce qui nous a frappé, c'est ça. On a regardé évidemment quelles étaient leurs références. Puis d'ailleurs, très souvent, on se retrouvait avec des gens qui nous parlaient donc soit de science-fiction, soit effectivement de l'Empire romain. Pas la République, l'Empire romain. L'Empire romain. Mais y compris chez les plus démocrates d'entre eux. Mark Zuckerberg a appelé tous ses enfants d'un nom romain antique. D'ailleurs, c'est très beau, mais c'est quand même une référence tout à fait particulière. Il a appris le latin, il est très féru de latin. Les autres, moins, je vous dis tout de suite. Mais enfin, bon, quand même. Donc, leur référence, ce n'est pas la démocratie athénienne, la Grèce de l'Antiquité, berceau de la démocratie, ce n'est pas non plus la République, c'est l'Empire. Exactement, d'ailleurs, comme la science-fiction. La science-fiction aussi a puisé beaucoup dans l'imagerie et l'imaginaire de l'Empire romain. On le voit bien, si vous regardez les films Star Wars, tous les costumes sont inspirés des costumes de l'Empire romain. C'est très important. Ils ont toujours cette idée de l'Empire, de l'empereur qui décide, qui étend son empire et qui fait œuvre de civilisation. Donc, c'est quand même cette idée-là, et c'est très imprégné. Encore une fois, ce n'est pas anecdotique. Ça nous a vraiment intéressé de voir ça, parce que c'est très imprégné, et ça conditionne même la façon dont ils mènent leur recherche et dont ils développent leurs entreprises. Il y a l'idée que, justement, ils sont à l'avant-garde de la civilisation, qu'ils vont bâtir un empire et qu'ils, justement, ça sera pour le bien des autres, et que, voilà, ils vont faire œuvre vraiment civilisationnelle, exactement comme l'Empire romain l'a fait dans l'Antiquité face aux barbares. Donc, c'est vraiment cette idée-là. Et c'est très important. Ça sous-tend une grande partie de leur décision, de leur imaginaire, de leur façon de concevoir leur façon de concevoir le pouvoir, en vérité.
Justement, c'est là où je voulais en venir sur le pouvoir. Quelle est leur relation au pouvoir? Parce que quand vous intitulez ce livre « Nos nouveaux maîtres », ça suppose un rapport de suggestion aussi. Est-ce qu'il y a une dynamique de pouvoir? Une dynamique, on voit qu'il y a une influence politique auprès de Trump pour porter un projet. Mais en tout cas, est-ce que eux, ces grands patrons de la tech, ont une ambition de pouvoir? Est-ce que Trump est leur instrument, ou est-ce qu'au contraire, Trump se sert de... Qui se sert l'un de l'autre? Qui se sert de l'autre?
Alors d'abord, cette envie de pouvoir, enfin cette désinhibition par rapport au pouvoir, elle date effectivement de l'explosion et du succès de ces entreprises de tech, donc effectivement début des années 2000. Mark Zuckerberg, au tout début, c'est le petit jeune homme à Harvard, il n'a pas du tout cette idée-là. Encore que Facebook, c'est quand même l'idée de fédérer tous les étudiants de la fac. Mais bon, ça reste quand même... Ils vont peu à peu avoir une idée du pouvoir au fur et à mesure de leur enrichissement et du pouvoir acquis par leurs entreprises. Et en fait, toujours, ils sont dans le sillage quand même des présidents, ils sont en accord avec les présidents pour des raisons d'intérêt. Là, avec Trump, il y a effectivement ceux qui sont autour de Trump par conviction, Peter Thiel, mais il n'y en a pas tant que ça, en vérité. Les autres, ils se rallient à Trump par intérêt, par peur aussi, parce que Trump les menace. Trump menace Zuckerberg de le traîner en justice. Il menace Jeff Bezos de faire entrer en vigueur et de jouer les lois antitrust, parce que vous savez que Amazon est en position de monopole dans bien des secteurs. Donc, il les menace. Et ça, évidemment, ça leur fait peur. Et puis, par ailleurs, ils ont besoin d'un bras armé. Et ils vont trouver en Trump ce bras armé pour lutter justement contre les régulations. Et on le voit bien, Trump est leur représentant et leur bras armé pour lutter contre les régulations que veut imposer l'Europe, par exemple. Hein ? Donc, c'est vraiment, ils ont besoin de Trump de cette façon-là. Ils ont besoin de Trump pour faire ce tournant de la politique énergétique où... terminer de réduire les émissions de gaz à effet de serre. On va surtout trouver des nouvelles ressources pétrolières et gaz. C'est tout ce que fait Trump aujourd'hui, le Groenland, le Venezuela. On va construire des data centers absolument géants. Et ça, c'est très important. Tant pis si ça consomme beaucoup d'eau, par exemple, et beaucoup, évidemment, d'énergie. Bref, ce tournant de la politique énergétique qu'a pris Trump, il l'a fait sur l'impulsion des patrons de la tech. Donc, pour l'instant, c'est un entrecroisement d'intérêts. Trump a besoin d'eux, et c'est bien pour ça qu'il a mis en scène leur ralliement. Hein, il a besoin de montrer qu'il les a derrière eux. Mais eux, ils ont besoin de lui. Mais jusqu'à quand ? Hein ? D'abord, ils sont plus jeunes que lui. Trump a 80 ans, donc déjà, ça va être réglé. Et surtout... ils ont placé... Non, mais je le dis, ça sera réglé pour chacun d'entre nous. Donc, mais bon, en l'occurrence, ce sera le cas. Et puis, ils ont placé un autre homme, Lige, qui est là, pour le coup, est un homme qui défend vraiment leurs intérêts au premier chef, qui est plus jeune que Trump et qui est en position. C'est le vice-président J.D. Vance, qui est vraiment une créature. Enfin, en tout cas, un homme qui a été poussé là par Peter Thiel, notamment, et qui est un homme qui défend les intérêts de la tech. Donc, vous voyez que ils ont bien pensé leurs intérêts politiques et ils sont rentrés de plein pied dans la politique, alors que jusque-là, ils étaient des compagnons de route, indéniablement des démocrates, mais beaucoup moins partie prenante.
Vous parliez des menaces à l'instant, Raphaël Baquet. Vous avez, pour ce livre, vous êtes allé dans la Silicon Valley, vous êtes allé à Palo Alto. Racontez-nous, parce que dans ce livre, il y a des témoignages anonymes, il y a des témoignages on, comme on dit, chez les journalistes, mais aussi anonymes. Racontez-nous l'ambiance, parce que c'est important pour comprendre ce rapport de suggestion, ce rapport de pouvoir, et en tout cas, comment c'est exercé. C'est pas si simple que ça, et en tout cas, je vous laisse... dire comment ça s'est passé pour rencontrer des gens qui ont bien voulu vous parler.
Oui. Alors, bon, c'est toujours difficile d'enquêter sur les entreprises. C'est classique, si vous voulez. Je parle d'enquêter en pays démocratique. Évidemment, ça n'a rien à voir avec enquêter sur l'oligarchie russe. Mais en pays démocratique, c'est toujours compliqué. Mais enfin, bon, vous contournez quand même les choses. Vous voyez les gens quand même relativement facilement. Vous les protégez pour pas que... problème, mais là vraiment, alors là, ça c'était tout à fait particulier parce que j'y suis allée donc juste quelques mois, c'était 4 mois après l'élection de Trump. D'abord, je trouvais que là, je suis allée plusieurs fois dans la Silicon Valley, mais là c'était la première fois que j'y retournais depuis l'élection de Trump. J'ai vu que c'était les gens étaient quand même beaucoup plus tétanisés et inquiets qu'auparavant, et c'est vrai que pour la première fois, j'ai vu des gens. Clandestinement, c'est vraiment très curieux. J'avais une petite chambre de motel parce que bon, les notes de frais du monde sont assez modestes, donc j'avais une petite. Et puis c'est très cher, c'est hors de prix. Mais j'avais une petite chambre de motel tout à fait modeste, et je recevais des hauts cadres de toutes ces boîtes, hein, qui sont, ils étaient tous multimillionnaires. Et je les recevais dans ma petite chambre de motel et on faisait l'entretien assis sur le lit chacun et on parlait. Donc c'était vraiment... et surtout impossible d'aller dans le moindre Starbucks parce qu'il n'y a pas de café sympa dans le coin. Mais c'était vraiment... les gens avaient très peur. Tout le monde a des contrats de confidentialité à rallonge et je peux vous dire que si vous êtes licencié, vous ne pouvez plus vivre dans la Silicon Valley. C'est tellement hors de prix que c'est impossible. Donc vraiment, c'était très sérieux. Et effectivement, c'est la première fois que je vois ça, d'ailleurs, avec les Américains, parce que j'ai déjà enquêté sur des boîtes américaines ou sur des responsables américains. C'est la première fois que je voyais ça. Oui, vraiment une inquiétude réelle.
Du climat qui règne là-bas.
Et effectivement, toutes ces grandes entreprises qui prônent la transparence, quand même, hein, qui prônent la transparence à tout craint, qui
ont... liberté d'expression.
Surtout donner de nouvelles données, il faut la liberté d'expression sans aucune limite. Évidemment, elles le font jusqu'à ce que on s'intéresse à eux. Et là, au contraire, vous avez une multitude de barrières qui se dressent devant vous.
Je vois que vous avez évoqué leur envie de quitter la Terre, de fonder de nouvelles colonies, etc. Il y a un mot qui accompagne tous ces gens-là, dans lequel ils se reconnaissent, c'est le transhumanisme. Mmh. Donc c'est l'humain augmenté, c'est comment aller toujours plus loin, et on parlera après de l'étape ultime. Je dévoile pas tout, mais voilà, pour qu'on suive le fil. Transhumanisme chez eux, est-ce que c'est un des moteurs de la réflexion? Il faut aller dans cette direction-là. Voilà, on a compris qu'ils étaient fascinés par le romantique, ils rêvaient de nouveaux espaces, de nouvelles planètes, de nouveaux conquérants, de réinventer le monde, de réinventer l'espèce humaine. Pour le coup, là, il y a quelque chose qui bouge aussi sur cette ligne-là, et c'est quand même assez, je sais pas, est-ce qu'on peut dire le mot transgressif? En tout cas, ils sont prêts à aller dans cette direction-là, plein fer.
Oui. Ça fait partie justement de leur goût pour la science-fiction, effectivement, et puis de la matière même qui est l'objet de leurs entreprises, c'est-à-dire la machine, l'ordinateur. Donc l'idée, effectivement, de pouvoir améliorer l'humain, de pouvoir le prolonger, voire de pouvoir le remplacer, est très présente, très présente. Et je ne suis pas étonnée, effectivement, que la recherche pour l'intelligence artificielle soit absolument dynamique et vivace, justement dans ce petit groupe. Alors l'intelligence artificielle, encore une fois, ça peut être utilisé à des fins tout à fait positives, notamment pour la médecine, enfin pour plein de sujets évidemment tout à fait positifs. Mais cette idée-là, qu'effectivement on peut augmenter l'humain, l'améliorer, voire le remplacer, c'est très fort. Et c'est très fort. Je me souviens d'avoir discuté avec des scientifiques d'un labo de Google qui travaillaient justement sur toutes les lunettes virtuelles, tout ce qu'on... C'était très frappant, leur idée de pouvoir même presque dupliquer les cerveaux. C'était vraiment...
Alors, racontez-nous.
Alors, ça reste encore théorique, mais c'était quand même... des discussions entre scientifiques qui n'étaient pas complètement... C'était pas un truc de dingue, hein. C'était des gens tout à fait, d'ailleurs, des vrais scientifiques, très probablement doués et très bons dans leur domaine, si tant est que je puisse le mesurer. Mais l'idée de créer effectivement une autre réalité, puisqu'ils travaillaient sur les lunettes virtuelles, et l'idée de pouvoir dupliquer le cerveau pour pouvoir transformer le langage, la vision, la pensée, c'était vraiment, ils en parlaient tous les jours dans leur labo, c'était ce qui dirigeait leur recherche sur l'intelligence artificielle. Alors encore une fois, pourquoi pas? Après tout, on peut discuter de tout ce qu'on veut dans un labo. Mais cette idée-là est très présente chez les patrons de la tech. Et évidemment, là aussi, c'est pareil. On n'a pas peur de la fin du monde, puisque, encore une fois, on pense y survivre. On pense pouvoir... Ça change la vision que vous avez de la planète. Ça change la vision que vous avez de la fragilité de la vie humaine. Vous voyez ? Donc, ça change même la vision que vous avez de la fragilité de la démocratie. Donc, ça change beaucoup leur état d'esprit. Et c'est très important. Beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Encore une fois, ce n'est pas une anecdote burlesque. C'est vraiment la réalité de ce qui fait l'état d'esprit de cette élite. Et je pense que c'est important, parce que la façon dont la course en avant au progrès, pourquoi pas, on a connu d'autres révolutions industrielles, mais cette révolution-là est une révolution anthropologique, donc qui va vraiment changer les choses de fond en comble. Cette révolution, elle est menée en partie par des gens qui sont dans cet état d'esprit. Donc, je dois dire que ça m'a inquiété. Je dois vous dire la vérité, ça m'a inquiété. Même si j'ai vu aussi tous les bénéfices qu'on pourrait en tirer. Mais l'idée, justement, d'encadrer, par exemple, ces recherches, c'est impossible. Or, après tout, on peut parfaitement imaginer encadrer les recherches. On a fait des tas de découvertes génétiques et en même temps, on a encadré, on ne fait pas... On a un encadrement éthique qui fait que on ne crée pas des clones, par exemple. Vous voyez, on ne crée pas de toutes pièces des enfants clones qui nous serviraient d'esclaves, par exemple. Vous voyez, c'est un encadrement éthique. Eh bien là, ce n'est pas le cas. Donc c'est très frappant. Et encore une fois, je ne suis pas du tout contre la recherche et le progrès scientifique, mais c'est un progrès scientifique sans aucune armature éthique, morale. de base.
Quand on vous écoute, Raphaël Baquet, vous l'avez dit, tous ces patrons et dans ces labos, on a affaire à des scientifiques, des ingénieurs. Donc
des ingénieurs.
Totalement rationnels, on va dire. Et pourtant, en vous lisant, on n'est pas loin de basculer dans la religion. Est-ce que vous faites un parallèle? Est-ce que vous êtes prête à aller jusque-là, à dire, quand on écoute Peter Thiel avec tout son raisonnement, ses références, etc., tout ça, il y a presque un côté messianique. Est-ce qu'on va jusque-là ou vous dites, bon, restons...
Pour certains d'entre eux, oui. Peter Thiel, très clairement. Il y a effectivement un côté messianique, religieux, qui dit Vance, tout à fait religieux. Il y a vraiment une conversion au catholicisme, avec une vision du catholicisme qui n'est pas celle qui a cours ici. Donc vous voyez, c'est bien sûr que ça compte. Il y a une vision d'ailleurs prométhéenne de la vie. Vous voyez, on défie les dieux. Il y a cette idée-là quand même. On est comme un dieu aussi soi-même. Donc bien sûr que cette dimension religieuse, elle est très importante. C'est pas tout. Alors encore une fois, pas tout le monde, mais pour quelqu'un comme Peter Thiel, oui. C'est-à-dire qu'on est à la fois avec des ingénieurs, donc des scientifiques, et en même temps, il y a une dimension plus mystique et plus irrationnelle qu'on ne pourrait le supposer face à des ingénieurs.
Ce qui doit leur rendre quand même pas la tâche un peu difficile, c'est quand même d'être au contact de Trump, qui n'est pas le scientifique qu'ils sont, qui n'est pas dans cette dynamique-là, qui a récupéré tout le vote conservateur, notamment tous les télévangélistes, et qui, alors que lui, est un fidèle, grossier, tout ce qu'on connaît. Comment se passe cette alchimie? Parce qu'il doit y avoir quand même... Est-ce qu'il y a du mépris? Est-ce que c'est le seul intérêt, les seuls revenus financiers qu'ils peuvent espérer?
Vous le voyez bien, ils font très attention à ce qu'ils disent. Donc, je doute qu'ils soient fans de Trump, sincèrement. Parce que c'est quand même pas tout à fait leur genre de beauté, en vérité.
Exactement.
Mais ils vont vers Trump par intérêt. Vous avez peut-être vu cette vidéo que Trump lui-même, évidemment, a postée sur les réseaux sociaux. Il les a invités à déjeuner, tous les patrons de la tech, y compris ceux qui étaient les plus réticents. Il les a invités dans un grand déjeuner et, évidemment, a été filmé le début du déjeuner, où chacun fait son compliment. Et c'est terrible, c'est affreux. Parce que chacun, effectivement, fait son compliment, mais un compliment outrancier. Je ne sais pas, il me semble que si on devait faire un compliment, je m'arrangerais pour faire un truc mieux que ça. Oui, bravo, vous avez été réélu, vraiment, quel succès, quoi. Bon, vous pouvez vous en arrêter là. Là, c'est autre chose. C'est vraiment un compliment tellement appuyé, tellement une dithyrambe, que vraiment, c'est une séance d'humiliation pour chacun d'entre eux.
C'est la reddition dont vous parlez dans
le livre. C'est la vraie reddition. Et donc, ils l'ont fait par intérêt. Parce que, franchement, je ne pense pas qu'ils adhèrent une seule seconde à cette idée-là. D'ailleurs, Trump ne comprend pas très bien ce qu'ils font réellement dans la tech. Bon, mais à vrai dire, moi non plus. Si je devais vraiment juger très concrètement le cœur de leur... Je suis capable de me le faire expliquer et de le traduire, mais je ne serais pas capable de faire leur recherche moi-même, bien sûr. Mais ce qu'on voit, c'est que, oui, c'est un ralliement opportuniste, quand même. Et Trump... Pour moi, est leur bras armé. Je pense que Vance, c'est autre chose.
Ce sera peut-être l'objet d'un prochain livre. Vance, on verra ce qu'il devient. Mais en tout cas, il nous reste quelques minutes, Raphaël Baquet. Je voudrais qu'on revienne sur un des sujets de votre livre, et ça fait le lien avec le transhumanisme dont on vient de parler, et ça fait écho aussi à cette vision très mystique qu'ils ont, c'est la cryogénie et dépasser la mort. Parce qu'on en est là. Et il y a des sociétés, vous le racontez dans le livre, il y a des sociétés américaines, enfin une société en particulier, qui a déjà cryogénisé 200 personnes. Donc on a 200 cadavres dans des frigos qui doivent être extrêmement confortables. Peut-être, je ne sais pas s'il y a du décor dedans, si on peut choisir son environnement et on a une playlist pour s'accompagner dans l'au-delà. Mais en tout cas, la question là aussi, elle est sur la table. Elle irrigue ces nouveaux surpuissants patrons de la tech qui sont décidés à braver la mort, dont notamment, je crois que c'est Peter Thiel, vous le racontez dans le livre, qui a déjà pris ses engagements pour être cryogénisé, persuadé de pouvoir revenir quand la technologie sera enfin au rendez-vous pour le rebrancher, le réveiller. Certains imaginent de pouvoir faire transférer la mémoire dans l'ordinateur. C'est assez fou. Bon, J'en dis assez. Racontez-nous.
Ben, oui, il existe cette société qui s'appelle Alcor, mais c'est comme un système d'assurance, si vous voulez. Mais vous prenez une prime d'assurance, enfin, vous prenez une assurance. Et cette assurance, c'est pas pour indemniser vos enfants si vous mourrez, les aider, ou vous-même si vous êtes blessé. Non, c'est effectivement pour avoir la garantie qu'à votre mort, immédiatement, les services se mettront en branle pour cryogéniser votre corps, donc le maintenir à température très très froide et le conserver jusqu'à ce que la science ayant suffisamment évolué, on puisse vous réveiller et vous permettre de vivre encore. Ce n'est pas une blague. C'est-à-dire que effectivement, moi aussi, j'ai ri au début, mais non, cette entreprise existe tout à fait. Et effectivement, plusieurs de ces patrons de la tech ont pris une assurance auprès d'Alcor, donc qui a pignon sur rue à San Francisco. Donc vraiment, c'est important. Et un de leurs théoriciens est venu à Stanford faire une conférence là-dessus, sur l'idée de repousser les limites de la mort. C'était, un des professeurs le dit à Stanford, il y avait autant de gens pour cette conférence qui était en plein air dans l'espèce d'auditorium qu'il y a à Stanford en plein air, il y avait autant de gens que lorsque Gorbatchev était venu après la chute du mur. Là, vraiment, absolument tout le monde, toute la fac était venue l'écouter. Donc, c'est quelque chose qui, là encore, n'est pas une blague. C'est quelque chose de très important. L'idée de repousser les limites de la mort, de repousser aussi la vieillesse. Alors, nous tous, on a envie de repousser les limites de la mort. Mais c'est pas donner de l'argent à la recherche contre le cancer. Vous voyez ? Ça, c'est ce qu'on fait, nous. C'est ce qui se passe en Europe. Non, c'est vraiment...
Il n'y a pas de philanthropie derrière.
Il peut y avoir une philanthropie, mais c'est une philanthropie beaucoup plus radicale que ça, parce que encore une fois, c'est pas pour la recherche contre le cancer, c'est vraiment contre la mort, vaincre la mort. Et d'ailleurs, Thiel le dit, il dit je suis contre l'État, je sais plus quel est son deuxième truc, et contre l'inéluctabilité de la mort.
Ouais, c'est ça.
Donc vraiment, et il le dit tout à fait sérieusement, hein, donc c'est, ça fait partie du transhumanisme d'ailleurs, c'est l'idée qu'on peut dépasser les faiblesses humaines. Et la première faiblesse, évidemment, c'est que la vie a une fin.
Donc, vous le racontez parce qu'ils investissent, vous le dites dans le livre, ils investissent dans des sociétés de biotechnologie.
Énormément.
Donc en fait, il y a aussi une espèce, pas une économie parallèle, mais il y a d'autres secteurs d'activité au-delà de toutes les entreprises qu'ils ont développées, qui nous accompagnent au quotidien, et qui savent tout de nous. Il y a ces investissements, on va dire plus discrets, mais en tout cas...
Mais des investissements importants. Hein.
Important.
C'est très important. Vraiment, pour effectivement, d'abord, ne pas vieillir. Bon, alors ça, nous tous, on fait attention à ne pas vieillir, mais il y a quand même des investissements très importants, et pour repousser effectivement les limites de la mort. Donc, c'est très fort. C'est vraiment l'idée que ça peut marcher. Parce que chacun d'entre nous essaye de repousser les limites de la mort depuis la nuit des temps. Les hommes essayent de repousser les limites de la mort. Mais là, c'est vraiment l'idée que ça peut marcher. Que ça peut marcher grâce à la technologie. Donc, c'est vraiment une vision de la tech qui est vraiment, encore une fois, messianique, comme vous le disiez tout à l'heure, mais l'idée que ça peut vous sauver. Ça peut vous sauver de tout. Et donc, effectivement, la duplication des cerveaux, la cryogénisation des corps, tout ça, c'est très sérieusement étudié. Vraiment, et à San Francisco, j'ai vu vraiment, encore une fois, ces sociétés ont pignon sur rue, vous pouvez y aller, et elles sont vraiment, leurs donateurs et ceux qui prennent des primes d'assurance sont parmi les plus grands patrons de la tech. Donc c'est très fort.
Il nous reste quelques minutes, Raphaël Baquet. Je voudrais qu'on termine cet entretien par un petit clin d'œil, mais en même temps, ça dira tout du retournement que vous expliquez dans ce livre, c'est Hollywood. Hollywood a façonné l'imaginaire américain, était très important dans la politique américaine aussi pour faire passer des messages. Hollywood, c'est fini, c'est has-been. Aujourd'hui, c'est la tech, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Ça se joue plus à Hollywood, c'est vraiment la Silicon Valley. C'est là où c'est le cœur, peut-être le cœur du nouveau pouvoir.
Ah oui, vraiment, le pouvoir s'est déplacé. Effectivement, c'est plus Los Angeles, c'est San Francisco et la Silicon Valley. D'abord, eux-mêmes... Vous le voyez bien, les vidéos, la réalité virtuelle, tout ce qu'on peut recomposer comme réalité grâce à l'intelligence artificielle, c'est en passe de remplacer, justement, on peut recréer des acteurs, l'intelligence artificielle, on recrée de la musique, on est toute la journée en train de regarder des vidéos sur nos téléphones. Donc, effectivement, à quoi bon faire encore un film classique? Et on le voit bien, d'ailleurs, les gens vont beaucoup moins au cinéma, parce qu'ils regardent les écrans chez eux, ils peuvent regarder sur les plateformes des films sur leurs propres ordinateurs, mais surtout, ils regardent des petites vidéos sur leur téléphone. Et ça, effectivement, aujourd'hui, le pouvoir s'est déplacé. Et on le voit bien, les Reagan ou Schwarzenegger, qui avaient été justement les gouverneurs de Californie républicains, aujourd'hui, ils ne viendraient plus de Hollywood. Aujourd'hui, d'ailleurs, le nouveau gouverneur californien Gavin Newsom, qui est encore un profil assez classique, mais il passe son temps à essayer de séduire les gens de la tech, parce qu'il sait bien que c'est ça qui fera son pouvoir, et non pas, effectivement, Hollywood et paraître à côté d'une actrice star.
Comment on en sort de ce livre? Parce que quand on vous lit, on se dit il va falloir quand même être vigilant. Mais vous qui avez travaillé dessus, qui vous avez rencontré, qui avez eu tous ces échanges à Palo Alto, sous le sceau de la confidentialité, vous avez mesuré la pression. Finalement, alors vous êtes plutôt une optimiste, ce que vous me disiez tout à l'heure. Est-ce que l'optimiste que vous êtes a été un peu bousculé, ou finalement vous dites c'est aussi un train qui est en marche, qui est lancé à pleine vitesse?
Je suis revenue un peu inquiète, je vous cache pas. Mais effectivement, d'abord, je suis optimiste, donc il faut. Et puis, je pense que effectivement, nous n'arrêterons pas cette révolution. Nous n'arrêterons pas cette révolution technologique. Donc, mieux vaut d'abord la comprendre déjà, hein, en comprendre les données, les limites et les dangers, et aussi les possibilités créatrices. Donc, je pense qu'il est important qu'on comprenne bien ce qui se passe. Hélas, je le regrette, mais l'Europe est très en retard. Donc, je pense que nous n'avons pas du tout regardé vers là. Donc, il faut faire attention, parce que c'est une vraie révolution, une révolution bien plus importante encore que l'a été le chemin de fer ou l'électricité. Vraiment une révolution anthropologique, encore une fois, comme je vous l'ai dit, qui va changer nos sociétés profondément, et peut-être effectivement notre humanité. Donc, il faut vraiment s'y atteler, le savoir, être dans la course et non pas dépendre entièrement des Américains ou des Chinois. Car là, je vous ai parlé que des Américains, mais le contre-pouvoir aux Américains, c'est les Chinois, c'est-à-dire un État totalitaire. Donc, c'est pas non plus ce qu'on veut. Donc il faut que effectivement l'Europe soit dans la course. Il faut qu'elle y soit avec ses valeurs. Je pense que redonner une armature éthique est quand même indispensable. Et c'est ça ce qui m'inquiète, c'est l'absence d'armature éthique. C'est pas les progrès de l'intelligence artificielle. Ce qui m'inquiète, c'est l'absence de réflexion des Américains là-dessus. Et je trouve qu'il y a très très peu de. Et effectivement, c'est en cela que la présence de Trump est pernicieuse et dangereuse, parce que donner l'élan politique à cette forme de folie, de course en avant, de fuite en avant sans aucune réflexion, ça c'est dangereux. Donc je pense qu'il est important qu'on le sache, il est important qu'on s'y attelle, qu'on comprenne ce qui se passe, qu'on en connaisse les acteurs, et qu'on soit capable nous-mêmes de pouvoir être dans cette course, dans ce monde, et de pouvoir aussi y imposer nos valeurs.
Et il y a une phrase peut-être pour conclure, et ce sera pour conclure Raphaël Bacquet, mais qui est prêtée que les gens de la tech disent, en toute modestie bien entendu, nous inventons l'avenir de l'humanité. Oui. Voilà, le défi là, en toute simplicité. C'est ça.
En toute simplicité, mais c'est pas faux. C'est vrai que oui, bien sûr, on le voit. Donc
le défi est devant.
On le verra très vite. Déjà, on le voit, effectivement, on peut le voir en Chine, mais on le verra bientôt, effectivement, dans nos sociétés.
Merci beaucoup pour cette heure d'entretien, Raphaël Bacquet, mon nouveau maître.